Seigneur, pour cette troisième plénière aujourd'hui, donne-nous ta force, donne-nous la concentration nécessaire. Que ton Saint-Esprit vienne nous vivifier. Pour que ta parole soit vivante, pour que ta parole soit transformatrice, pour que ce soit plus que des mots et du vent qui sortent de ma bouche. Seigneur, sans ton esprit, ça ne sert à rien. Alors tous ensemble, on le réquisitionne, Seigneur. On demande son action, sa puissance dans nos vies. Amen. Une vie avant la mort, certainement. Merci, chers techniciens. Merci à tous nos choristes et musiciens. Il y a de plus en plus de choristes qui prennent le micro, c'est fantastique, hein? Je ne sais pas si vous vous souvenez de mon commentaire d'hier soir. Je trouvais qu'on manquait de gêne un petit peu. Là. On était gênés un petit peu, je trouve. Mais, demain matin, on va tout être en avant. On va faire un gospel choir. Y a-t-il une vie avant la mort? Certainement par la saine gestion de mes finances. On va parler d'argent ce soir. Oh! Non, au moins une que ça intéresse. C'est un sujet qui est vraiment proche de mon cœur, l'argent. Pourquoi je pense qu'on devrait en parler? Parce que c'est tabou, surtout dans nos églises. Hein? J'ai passé une semaine cet été à être conférencier au Camp Peignel, et puis c'était le thème. Et j'ai commencé en demandant aux gens, et on ne le fera pas ce soir, ne craignez rien, mais j'ai dit... Vous allez prendre un bout de papier anonyme et vous allez écrire votre salaire. Ah, oui, ça crée un malaise, hein? Je vais vous en parler de mon salaire ce soir. Moi, je veux casser les tabous. Moi, je suis tanné des tabous. Alors, on va parler de ça. OK? Pourquoi c'est important de parler d'argent? Parce que Jésus en a parlé d'argent. Jésus n'était pas gêné de parler d'argent. 15% de toutes les paroles du Christ concernent les finances. 15%. Il a parlé plus d'argent que du ciel, que de la foi, que de l'enfer réunis. Hein? C'est important, vous pensez qu'on en parle, nous autres, ici? Puis on est gêné. On va briser les tabous. Vous êtes avec moi? Amen. Faut que je fasse un petit aparté sur mon titre. J'ai reçu des questions, j'ai reçu des commentaires. Certains n'étaient pas à l'aise avec... Et c'était volontaire. Je l'écrivais pour provoquer, pour créer une réaction. L'argent fait le bonheur des autres, surtout quand on le donne. Donc, c'était ça mon jeu de mots. C'était ça mon petit piquant. Okay? Pourquoi parler d'argent? Comme je l'ai dit, 15%. C'est énorme quand vous pensez à ça. 15% de toutes les paroles du Christ concernent les finances. Pourquoi parler d'argent? Parce que c'est tabou. Hein? Combien gagnes-tu? Je ne sais pas combien seraient à l'aise de lever la main et de partager leur salaire ce soir.
Est-ce que tu veux savoir mon salaire actuellement aujourd'hui?
Parce que tu vas me dire que c'est zéro? Ou c'est pour ça que c'est... C'est pour ça que c'est facile à partager quand tu gagnes rien.
Sérieusement, ça tourne autour de 24 $.
OK. Donc, annuellement, ça fait?
Ouf, j'ai pas fait le calcul.
48 000 à peu près par année. OK. Le salaire moyen au Canada, c'est 50 000 $ par année. Oui, ben au Québec, c'est un petit peu plus bas, mais il y a les provinces, l'Ontario et les provinces de l'Ouest qui font monter la donne un petit peu. Oui. Pourquoi parler d'argent? Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Wow! Si je ne mets pas mon argent dans quelque chose, est-ce que je peux dire que mon cœur est là? Je pense pas. Si ça ne vient pas toucher le fond de ma poche... Je pense que mon cœur n'est pas là. Tu ne peux pas adorer Dieu et Mammon, hein? Jésus nous dit cela. Donc, voici une situation que j'ai rencontrée dimanche passé. Un jeune homme, Mathieu, il a 22 ans, il fait un DEP en arboriculture, il possède une moto, il a un iPhone, et il a 11 500 sur sa marge de crédit étudiante à 4,5, puis il dit « François, j'ai besoin d'aide ». Qu'est-ce que vous répondez à ce jeune homme? Je vais te voler un petit peu d'eau, chérie. Merci. Il dit, j'ai jamais fait de budget, je sais pas où va mon argent. Donc, je lui ai dit, as-tu besoin d'une auto et d'une moto en même temps? Peux-tu conduire les deux en même temps? Il m'a dit non. Mais par contre, il m'a dit, l'auto, quand je la prends l'été, ça me coûte beaucoup moins cher que si je prenais une auto. Donc, chauffe sur le gaz, c'est bon. Donc, on peut faire des calculs pour justifier à peu près tout. Mais en fait, il a réalisé qu'il vivait au-dessus de ses moyens. Et il faut qu'il rembourse absolument ses dettes, parce que les proverbes disent que si tu as une dette, tu es esclave. Hein? Et moi, je suis en faveur de la liberté. Hein? Êtes-vous en faveur de la liberté, vous aussi? Donc, si on peut vivre sans dette, surtout que lorsqu'il va arrêter d'étudier, je pense qu'il y a une période de grâce de 6 mois sur sa marge étudiante, mais après ça, il va tomber à du 10, 11 %. Donc, fouille. Oui, oui, c'est ça, c'est à la banque. Oui. Donc, moi puis un de mes amis, on aime bien ça discuter d'argent puis tout ce que les versets de la Bible disent là-dessus. Donc, il s'est assis avec nous, puis mon ami va commencer à faire des rencontres avec lui aux 2 semaines pour l'aider à établir un budget et puis s'en sortir. Et puis, il était prêt à être redevable. Donc, son cœur est beau, son cœur est pur. Mais c'est des situations, moi, j'adore ce genre de défi-là. Puis, c'est très réel. Puis, peut-être que certains d'entre vous, vous vous reconnaissez là-dedans. Donc, c'est pertinent. Les fondements de la générosité. Je voulais commencer avec ça. Tout appartient à Dieu. Si ça, c'est pas clair dans nos têtes, ça va être difficile pour nous de donner. Parce qu'on va passer notre vie à penser que c'est à nous. C'est dur de donner quelque chose quand tu penses que c'est à toi. Mais si c'est pas à toi, c'est plus facile de le donner. Hein? C'est facile de donner l'argent des autres. Ça a toujours été facile de donner l'argent des autres. Hein? Fait que si ça appartient à Dieu, c'est facile à donner. C'est quoi les fondements? Au commencement, Dieu créa. Hein? Il est le créateur de tout. Donc, tout lui appartient. C'est lui qui l'a fait. Ça commence comme ça. Un autre verset dans Psaume. À l'Éternel la terre, ce qu'elle renferme, le monde, ceux qui l'habitent, car il l'a fondé. Donc, encore ce thème-là de la création. Vu que c'est lui le créateur, bien, tout lui appartient. On continue dans Agé. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Dans Jacques, toute grâce excellente et tout don parfait. Ça doit inclure l'argent que je gagne, puis le salaire que j'ai, puis la job que j'ai. Tout ça, ça vient du Père des Lumières. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Un beau petit verset dans 1 Corinthiens 4 que j'aime beaucoup, qui nous évite de s'enorgueillir, de devenir arrogant, de penser qu'on est meilleur qu'un autre parce que je fais tel salaire. Hein? L'apôtre Paul nous pose cette question. Qu'est-ce que toi que tu n'as pas reçu? Tout est une grâce, tout est un cadeau. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Ce qu'on a... Est-ce que quelqu'un a du gigolo pour cette porte-là? Un petit peu de graisse, hein, ça ferait du bien. Donc, on va exiger davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. L'argent qu'on gagne, c'est quelque chose que Dieu nous confie. C'est quelque chose que Dieu me confie. Et puis, il faut être sérieux parce qu'on va demander beaucoup à celui à qui on a beaucoup confié. Donc, ça, c'est les fondements que tout appartient à Dieu. Après ça, mon deuxième point, c'est que dans la Bible, on voit que Dieu a un cœur énorme pour les pauvres. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, il y a plus de 2000 versets qui traitent de cette question-là. Le cœur de Dieu pour les pauvres. Donc, je voulais regarder ça un petit peu avec vous ce soir. En regardant 3 textes rapidement, Lazare et le riche, quelques commentaires sur le prophète Amos et puis l'histoire de Zachée. On va commencer par lire l'histoire de Lazare et le riche. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Il y a un autre gars dans l'histoire, il s'appelle Lazare. Il est couché à sa porte, il est couvert d'ulcères. Ça me ramène dans mon métier, ça. Parce que je suis spécialiste en soins de plaies. Donc ça me parle, cette histoire-là. Il y a un gars qui est couvert d'ulcères. Il veut se rassasier des miettes qui tombent de la table du riche, puis les chiens vont lécher ses ulcères. Vous voyez le portrait? Il y a même les animaux qui vont licher ses plaies. Je ne sais pas pourquoi les chiens sont attirés à ça, mais quand je fais de l'exercice physique, puis je monte en haut, mon chien vient me licher les jambes, parce que, je ne sais pas, il aime ça, il aime l'odeur de la sueur ou quelque chose. Il aime ça, je ne sais pas, les chiens sont comme ça. C'était le cas. Lazare se faisait licher les plaies. Le pauvre meurt, il est apporté par les anges dans le sein d'Abraham, au paradis. Le riche meurt aussi, il est enterré. Ça, c'est quoi ça? C'est un pied, hein? C'est l'extérieur d'une jambe gauche. Et vous voyez les ulcères? Ça, c'est un vrai patient. C'est le genre de job que je fais, ça. Et ça nous aide à comprendre Lazare. Quand on a dit qu'il était couvert d'ulcères, ça devait ressembler à ça. Okay? Ça, c'est mon travail. On continue l'histoire. Il y en a des pires dans mon ordinateur, des photos de plaies, mais je voulais vous épargner un petit peu quand même, après avoir mangé comme ça. Dans le séjour des morts, il lève les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écrie « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. » Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. Wow! Quelle histoire de fou que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne. J'ai beau fouiller le texte, la seule raison évidente pour laquelle le riche se retrouve dans un endroit de souffrance, c'est qu'il n'a pas pris soin du pauvre qui était à sa porte. Ça me parle. De quelle façon je prends soin du pauvre, moi, dans ma vie? En tant que personne, en tant qu'Église? Je veux qu'on réfléchisse à ça ce soir. Juste avant d'aller dans l'histoire de Zachée, quelques mots sur Amos. Amos est un prophète dans l'Ancien Testament. Et comme tout bon prophète, Dieu l'envoie pour chicaner un peu son peuple. Bel job, hein? Tu reçois un appel, OK, tu vas aller chicaner mon peuple. OK. Qui lève la main pour ça, hein? Qui s'inscrit? Embarquez-vous, il disait. Vous verrez du pays. Ça, c'est l'armée, ça. Donc, Amos dit oui, puis il décide d'aller chicaner son peuple. Et quand on lit le livre d'Amos, on est surpris par l'emphase, justement, qui est mise sur la pauvreté, le cœur de Dieu pour le pauvre. Et on demande à Amos d'aller chicaner le peuple parce qu'il ne prend pas soin du pauvre. Pas suffisamment soin du pauvre qui est dans son sein. Amos 5:12 dit « Vous opprimez le juste, vous acceptez des pots de vin et vous lésez le droit des pauvres en justice. » Puis là, écoutez bien ce que dit Amos 5:23. Et puis, suite à un enseignement sur l'adoration, la louange, c'est très pertinent ce qui est écrit là. Ça dit « Éloignez donc de moi le bruit de vos cantiques. Je suis tanné de vous entendre chanter, dit Dieu. Je ne veux plus entendre le bruit que font vos luttes, mais à la place que le droit jaillisse comme une source d'eau, que la justice coule comme un torrent pour le pauvre. » Si on adore Dieu sans un cœur pour le pauvre, Dieu nous dit, je préfère pas vous entendre. Wow! C'est quelque chose, hein? Éloignez donc de moi le bruit de vos cantiques, si la justice ne coule pas dans vos assemblées. Ça aussi, ça me parle. Qu'est-ce que je fais pour que la justice coule? Vous savez, quand j'ai fait ce sondage-là au camp Peignel cet été, en demandant le salaire de chacun, j'avais des gens qui gagnaient 12 000 par année, puis j'avais un médecin dans la place qui gagnait plus de 400 000 par année. Qu'est-ce qu'on fait en face de ces inégalités salariales dans l'Église? Est-ce qu'on peut au moins en jaser? Ou bien non, c'est trop tabou, puis il n'y a personne qui ose. Quand l'apôtre Paul nous dit « le surplus des uns a permis qu'il y en ait, que ceux qui en manquaient en aient » dans Corinthiens 8, ça s'applique, je pense, à ce genre de situation. Zachée maintenant. Lisons l'histoire de Zachée. Luc est très fort économiquement parlant. Si vous voulez une bonne réflexion économiquement parlant, lisez Luc. On vient de lire Luc 16. Et maintenant, on est rendu dans Luc 19. Puis entre les deux, c'est le jeune homme riche qui parle à Jésus. Puis qu'est-ce que Jésus lui dit? Il dit, va vendre tout, puis viens, puis tu me suivras après. Donc économiquement, il y a du stock pour ne pas s'ennuyer dans Luc. Donc, Luc 19. Jésus rentre dans la ville de Jéricho. Il la traverse. Il n'avait pas le but d'arrêter. Il voulait juste la traverser. Il s'en allait ailleurs. Mais il y a un homme qui s'appelle Zachée. Il est chef des collecteurs d'impôts. Gigolo, gigolo. Il est chef des collecteurs d'impôts et le texte précise qu'il est riche. Là, je vais utiliser des mots qui vont peut-être choquer vos oreilles, mais c'est un crosseur. Okay? Financièrement parlant, c'est un juif qui travaille pour l'ennemi, pour les Romains, en chargeant de la taxe, puis en plus, il s'en met dans les poches à chaque fois. Le mauvais est en cours. Moi, j'habite Laval, OK? Quand on l'a arrêté à son condo, là, il flushait des billes de sang dans sa toilette. Oui. Dans cette histoire-là. Oui. Toi, tu viens de Brebouillant, hein? C'est dans le même coin. Fait que Zachée n'est pas tellement aimé, je pense, de ses compatriotes juifs. Hein? Parce qu'il lui vole l'argent pour s'enrichir. Mais il cherche à voir Jésus. Wow! Il y a de l'espoir pour un riche qui s'empiffre sur le dos des autres. Parce qu'il a le goût de voir Jésus. Mais il ne pouvait pas parce qu'il est tout petit, nous dit la foule. Alors, il court avant. Il grimpe sur un sycomore, une sorte d'arbre. Parce qu'il planifie, il dit, bon, si Jésus passe dans la ville, on sait qu'il va passer par là. Fait qu'il prend de l'avance, puis là, il grimpe d'un arbre, puis il dit, bon, Jésus va passer là, je vais pouvoir le voir. La première fois que j'ai entendu parler du Zachée, moi, c'était à catéchèse, je pense, j'avais 10 ans. Hein? Puis le but de l'histoire, c'était qu'on apprenait que Zachée était tellement petit qu'il avait dû grimper d'un arbre pour voir Jésus. C'était ça qu'on apprenait. C'est pas ça, pantoute, l'histoire. Hein? C'est pas ça, pantoute. Si c'est ça qu'on retient du message, on est des patates, là, ça aligne. C'est comme si tout ce qu'on retient du Jonas, c'est la baleine. On est des patates. Parce que Jonas, c'est une histoire de grâce. Hein? Puis nous, on retient la baleine. Même chose ici. C'est pas une histoire d'arbre. Il court, il grimpe pour voir Jésus. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il s'arrête, il lève les yeux, et il interpelle Zachée, « Dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Jésus sait très bien que Zachée est dans l'arbre, puis il est là parce qu'il veut y parler. Fait qu'il dit, « On va aller luncher chez vous. » Zachée se dépêche et il reçoit Jésus avec joie dans sa maison. Quand les gens virent cela, il y a un murmure d'indignation. Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. Y a-t-il de la grâce dans nos cœurs pour que Jésus s'occupe du maudit crosseur de la ville? Hein? Si Vaillancourt se repent là, demain matin, là, je vais-tu être content ou je vais dire il est tard un peu que tu te répandes, mon homme? J'aurais aimé ça que tu te répandes là 20 ans. Parce que moi, je paye mes taxes. Moi, je viens de recevoir mon compte de taxes à Laval, là. C'est 1 700 $ deux fois. Ça fait 3 400 $, Ça, c'est juste mes taxes municipales, c'est pas mes taxes scolaires. On va rajouter un 600-700 là-dessus. Ça me coûte 4 000 $ de taxes par année. Puis lui, je sais qu'il y a 20 millions de placés dans Barbade sur mon dos à moi. Ça me tente-tu de payer mon compte de taxes, vous pensez? Puis quand le gars passe à ma porte pour me charger 25 $ pour mon chien, j'ai le goût de l'engueuler. Parce qu'il travaille pour Vaillancourt. Je vous fais part de mes émotions internes. Là. Okay? Je vous expose mon cœur. Là. Il y a un fardeau. Là. Ça grince, hein, vous voyez? Les gens de la ville, là, ils ressentent la même affaire. Ils sont en maudit que Jésus s'occupe de ce gars-là. Parce qu'y a-t-il le droit d'avoir de la grâce, ce gars-là? Y a-t-il le droit d'avoir de l'attention de Jésus? C'est notre ennemi! Jésus, comment tu fais pour être ami de notre ennemi? Si tu es ami de notre ennemi, t'es-tu notre ennemi aussi? Ça brasse. Zachée se présente devant le Seigneur et lui dit, « Écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Puis si j'ai pris trop d'argent, comment ça, si? » Hein? C'est drôle dans le texte, là. C'est humoristique, je trouve. Je lui rends 4 fois plus. Ça, l'Ancien Testament enseignait ça, hein, la rétribution. Tu voles un bœuf, t'en remets 4, mon homme, ou 5. C'était comme ça. Fait qu'il décide de donner 50% et de pratiquer le principe de la rétribution. Le verset 9. Portez bien attention au verset 9. Jésus lui dit alors, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » À quel moment est-ce que Jésus prononce cette phrase-là? Au moment où Jésus, Zachée, c'est dur à dire les deux dans la même phrase. À quel moment est-ce que Jésus prononce cette phrase que le salut est entré dans la maison? C'est au moment où Zachée va prendre une décision économique. C'est au moment où il va prendre soin des pauvres. C'est au moment où il va remettre 4 fois ce qu'il a volé au monde. C'est à ce moment-là que Jésus dit, oui, le salut est entré dans cette maison-là. J'en ai la preuve. Ton cœur a changé. Alors, si je continue à gérer mon argent, une fois que je suis devenu chrétien, de la même façon que quand j'étais pas chrétien, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Est-ce que le salut est vraiment entré dans mon cœur comme il est entré dans cette maison-là si je ne change pas mon comportement par rapport à l'argent? Ça vaut la peine de se poser cette question-là comme chrétien. L'argent, c'est important pour Jésus. Il en a parlé. Il faut écouter ce qu'il nous dit. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Au moment même où Zachée a fait ce changement de comportement par rapport à l'argent. Je vous ai dit que le fondement de la générosité, c'est que tout appartenait à Dieu. Après ça, je voulais voir avec vous que Dieu a un cœur pour les pauvres, avec les textes qu'on a lus dans Amos, dans Zachée, dans Lazare. Mon troisième point, c'est que je suis riche, vous êtes riches, nous sommes riches. C'est un chant. Non, c'est une blague. C'est pas un chant. Est-ce que vous vous considérez comme riche? Il y en a qui sont pas sûrs. Merci pour le verre d'eau, Junia. C'est du jus de bave de trombone. Je joue du saxophone. Je sais c'est quoi du jus de bave, moi aussi, d'instrument avant. Merci pour l'offre. Je vais passer. C'est sûr qu'on a tendance à se comparer. Puis on se dit, ben, je suis moins riche que mon voisin. Mais si on fait un pas de reculons, là, puis on se compare Québec versus le reste du monde. Est-ce qu'on est riche? Les statistiques disent que si tu as une maison, ou si tu as un auto, ou si tu as assez de linge pour mettre dans ta garde-robe, puis tu as un petit peu d'argent en banque, tu fais partie du 3% des plus riches sur la planète. Donc, moi, je suis riche. Peut-être que certains d'entre vous ne rentrez pas dans cette catégorie-là. Peut-être que vous êtes étudiant, peut-être que vous en arrachez en ce moment, peut-être que vous mangez du beurre de peanut puis du spaghetti à sauce tomate. Quand tu es rendu à acheter du Kraft Dinner, le no brand name, là, c'est parce que tu n'as pas beaucoup d'argent. Okay? Mais un jour tu vas peut-être avoir un travail, un jour tu vas peut-être... Je me considère comme riche, je me considère comme faisant partie des privilégiés. Je ne connais pas votre situation économique. Peut-être qu'il y en a qui se disent « Oui, moi aussi, je fais partie des riches de la planète. » Puis peut-être qu'il y en a qui disent « Non, moi, j'en arrache en ce moment, puis je ne fais pas encore partie de là. » Puis je vous dis, les études vont passer, vous allez trouver un emploi, puis les choses vont se replacer. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, avec ces trois choses-là qu'on a vues? Est-ce que mon micro marche? Peut-être pas assez proche. Faut que je le colle sur mon menton comme ça. J'aime mieux les micro-cravates. Comment intégrer tout ça ensemble? Le fait que tout appartient à Dieu, le fait que Dieu a un cœur pour les pauvres, puis le fait que je suis riche. Comment est-ce qu'on fait pour trouver une solution pour ce dilemme-là? Ma réponse, ma conviction est la suivante. J'ai besoin d'adopter un mode de vie le plus simple possible pour libérer le plus d'argent possible pour le royaume de Dieu. Pour aider le pauvre, pour aider l'avancement du royaume. Je vous raconte deux petites histoires. Alain et Catherine Barnard. Peut-être que je prononce mal leur nom. Des gens en affaires qui ont 6 enfants. Okay? Ils ont une compagnie à gérer. Ça va bien leur affaire, ça roule sur l'or. Et puis à un moment donné, ils lisent un livre qui s'appelle « Rich Christian in an Age of Hunger ». Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça? Des chrétiens riches dans un âge de faim. So, Rich Christian in an Age of Hunger. L'auteur, c'est Sider, S-I-D-E-R. Et ça l'a changé leur vie. Et ils se sont posé la question, comment est-ce qu'on fait pour vivre dans ce mode de vie qu'ils avaient alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim? Et ils n'étaient plus capables de gérer ça avec leur conscience. Fait qu'à un moment donné, ils annulent un voyage qui était pour lui coûter 350 $ pour le donner, pour soulager la pauvreté à quelque part dans le monde. Puis là, il y a des amis qui voient ce qu'il fait, puis ça les influence, puis ils décident de participer à eux autres. Fait que finalement, ils ramassent 2 000 $ pour cette cause-là. Et un jour, il va à Urbana. C'est pas des blagues, là. C'est son histoire. Il va à Urbana. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi Urbana ici? Marc, il faut que tu expliques c'est quoi Urbana. Oui. Amen. Comme moi, j'étais là. J'étais là, j'ai amené mon fils aussi, Michael, le dernier Noël. Faut vous imaginer ça, là, on chante des chansons, okay, on adore Dieu, on est 20 000 ensemble. Puis on les chante dans à peu près 7 langues différentes. C'est malade, là. C'est un avant-goût du paradis. Là. Vous voulez être là. Okay? J'ai déjà donné 1 000 $, moi, pour le prochain, là, pour ceux qui ne sont pas capables de se rendre. Là. Moi, je veux que vous soyez là. Okay? Fait que faut être là. Donc, eux autres, ils vont à Urbana, ils sont touchés. Donc, ils partent une compagnie et ils ont dit, nous, on va mettre les profits au service du royaume des cieux. Donc, ils décident, ils font un inventaire de tous les versets sur la pauvreté, la richesse, les dangers. Et puis là, après ça, les dangers de la richesse. Puis après ça, ils déterminent leur budget. Puis ils disent, nous, on va vivre avec ça. Peu importe c'est quoi notre revenu, nous, on va vivre avec ça. Puis le reste, on le donne. Pas pire. Puis là, la compagnie prospère. Ça devient la plus grosse compagnie dans leur domaine, dans tout le sud-est des États-Unis. Ça passe de 50 millions de chiffre d'affaires à 250 millions de chiffre d'affaires. Dans les derniers 15 ans, ils ont donné 70 millions pour le royaume de Dieu. Ouh. Moi, ça me parle. Moi, j'ai le goût de vivre ça. Hein? Chaque mois, ils donnent 1 million. Ils ont créé une organisation qui s'appelle Grove, G-R-O-V-E, God's Resources Operating Very Effectively. Donc, les ressources de Dieu le plus efficace possible. Traduction libre. Ça, c'est loin de nous. Hein? C'est un Américain, c'est un riche, c'est loin de nous autres. Ça, c'est qui, ça? Ça, c'est mon ami. Kolodenchuk. Oui, oui, oui. Moi puis Nicolas, on est body-body. Okay? Et lui, il a une conception des finances que j'adore. Puis c'est un gars, c'est une machine à faire de l'argent. Okay? Tout ce qu'il touche, là, ça prospère. Il est jeune, là. Il va avoir 30 ans. Et puis, il va faire 1 million d'ici une couple d'années. Mais, ils ont adopté le même style de vie que notre couple d'en haut. Ils ont un budget. Ils disent, nous, on a besoin de ça pour vivre. Puis tout ce qui dépasse ça, on le donne. Wow! Je capote. J'aime ça. Ça, c'est de l'évangile pour moi vécu. Hein? Ça résout nos dilemmes que tout appartient à Dieu, que Dieu a un cœur pour les pauvres, que je suis riche par cette façon de faire. J'ai le goût de faire pareil. Si j'ai un salaire moyen de 50 000 puis que je vis 40 ans, je vais avoir 2 millions à gérer dans ma vie. Avez-vous déjà réalisé ça? Là où vous dites, ah, je suis étudiant, j'ai la misère à arriver, je mange du spaghetti blanc, fous-moi la paix avec ton 50 000. Mais un jour, vous allez avoir géré de l'argent. Donc, mieux vaut être exposé maintenant aux principes et développer votre habitude, parce qu'un jour, vous allez peut-être arriver là. 2 millions. 2 millions, c'est de l'argent. Comment est-ce que je vais gérer ça dans ma vie, 2 millions de dollars? OK, moins impôts, il en reste 1 million, vous allez me dire. Là. C'est vrai, c'est vrai. Moins il décolle, plus 50 % sur ma paye. C'est comme ça. Oui. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. On vit dans un système social où, oui, l'argent des riches peut aider quelqu'un de plus pauvre. Est-ce que ça veut dire que tout l'argent est bien utilisé? Non. Mais je suis d'accord avec le principe. Puis je ne vais pas fourrer les impôts parce que c'est mal utilisé. Donc, il faut réaliser que dans ma vie, il faut que je prenne les bonnes décisions le plus tôt possible dans ma vie parce que je vais avoir beaucoup d'argent à gérer. Toute ma vie. Donc, là, j'ai décidé de me mettre à nu, que de briser les tabous. Je vais vous montrer mon T4. Tout le monde sait c'est quoi un T4? N'as-tu qui ont jamais reçu un T4? OK. Un T4, finalement, c'est le gouvernement qui t'envoie ça, qui établit toutes tes sources de revenus puis qui te donne un montant. OK, donc on va regarder ça. Ça, c'est mon T4 2012. Donc ça, c'est mon salaire. Ça crée peut-être de l'inconfort, ce que je suis en train de faire. Ça ne me dérange pas. Ça, c'est mon salaire, OK? Et ça, c'est l'impôt fédéral. J'ai payé 25 000 piastres d'impôt fédéral. J'ai payé plus en impôt que le salaire, peut-être, du 2/3 de des personnes ici. L'impôt provincial, c'était 29 000. Fait que mettons 30 plus 25. J'ai payé 55 000 $ d'impôts en cette année-là. C'est fou, hein? J'ai payé le plus d'impôts que le salaire moyen au Canada. On casse les tabous ce soir. Donc, on part avec ça, l'impôt provincial, l'impôt fédéral, tout ça. Il me reste un revenu après impôt de 106 000. J'ai d'autres déductions, le régime des rentes du Québec, l'assurance emploi, taxes, blablabla, blablabla. Revenu net, 63 plus. Cette année-là, j'ai fait une bonne année. Donc, ça me donne 90 000 net. Est-ce que je suis riche? Il y en a qui disent oui, t'es pas mal plus riche que moi, en tout cas. Je sais très bien que je fais partie des privilégiés de la société. J'ai pas commencé avec ce salaire-là. Quand j'ai commencé, il y a 22 ans, ils m'ont donné 33 000. Puis, job, puis promotion, puis augmentation. Puis là, je suis rendu là. Puis, c'est pas toujours. 2012 était une grosse année. Cette année, je vais faire 9 000 de bonus. Hein? Fait que c'est pas toujours pareil. Ça, c'est mes dons. 12 800. C'est-tu beaucoup? C'est-tu pas beaucoup? Il y en a qui calculent un pourcentage. Y a-tu donné son 10 %10 %, c'est 9 000. Il a donné ce 12 800. C'est pas pire. Il est en haut de la courbe, mais il pourrait donner plus. C'est un riche, maudit. Ça, c'est après impôt. Oui, puis il y en a qui disent qu'on devrait donner avant impôt, une autre qui disent qu'on devrait donner après impôt. Bon, le 10 %. J'y crois pas. Je veux pas choquer personne, mais pour moi, c'est un concept de l'Ancien Testament. Est-ce qu'on retrouve le 10 % dans le Nouveau? Une seule place. Matthieu 23, 23. Quand Jésus chicane les pharisiens, puis ils disent, vous donnez même la dîme de votre menthe que vous faites pousser dans votre jardin, puis vous n'êtes pas capable de vous occuper des veuves, quelle bande de êtes-vous? Et là, il rajoute, vous auriez dû faire le 10 % et aussi prendre soin des pauvres. C'est le seul passage du 10 % dans tout le Nouveau Testament. C'est le seul passage qui parle du 10 % dans le Nouveau Testament. Ah, OK, je comprends ce que tu veux dire. Oui. Pour moi, les exemples de générosité dans le Nouveau Testament, c'est la veuve qui rentre au temple puis qui donne 2 cents, puis que Jésus il loue, puis il dit qu'elle a donné plus que tout le monde, parce qu'elle a donné de son nécessaire. C'est l'église de Macédoine qui est pauvre, mais qui décide quand même de contribuer à la collecte pour une église qu'ils ne connaissent même pas, qui est à l'autre côté du monde, Jérusalem, qui est en famine. Ça, c'est les exemples de générosité qu'on a dans le Nouveau Testament. Est-ce que c'est plus que 10 % ou est-ce que le 10 % est éclaté? À mon avis, oui. Vous vivez avec le 10 % j'ai pas de problème avec ça. Moi, je trouve que c'est un concept de l'Ancien Testament et je vise à vivre plus que 10 % Caterpillar, j'en ai parlé ce matin. Y a-tu vécu avec le 10 % lui? Bien, il a vécu avec le 10 % qui restait, en fait. Il a donné 90. Ces gens-là, là, que j'ai nommés tantôt, ils vivent. Ils ne vivent pas avec la loi du 10 % Maintenant, c'est allé où cet argent-là? Ce 12 800 pièces-là est allé où? Bon, 5 000, c'est CMI, ça c'est mon église locale. 990, c'est MB Mission. Ça c'est Mennonite Brethren, c'est les frères Mennonites, c'est leur mission. J'ai soutenu un missionnaire, que je me souviens plus c'est qui. Désolé. Je pourrais le retrouver, là, mais ça me... A senior moment. Direction chrétienne. 4575, GBU, 2000, Urbana, camp, ce camp ici, puis un ouvrier. Vision mondiale, les petits enfants pauvres. Pioneer, ça c'est, est-ce qu'il y en a qui connaissent ça? La personne que je soutiens, c'est un informaticien qui travaille dans le département informatique pour annoncer l'Évangile au monde musulman. Donc, ils sont basés en Angleterre et puis ils projettent vers la Turquie, le Maroc, etc. Et puis, ils répondent à des questions, des gens qui sont intéressés. Donc, il y a de la correspondance biblique. Et puis, bon, ici, j'ai participé à un banquet là, pour un orphelinat en Haïti. Bon. C'est quoi votre feedback quand vous regardez ça? Qu'est-ce que vous avez à me dire? Allez-y, mon cœur est ouvert. C'est-tu correct? C'est pas correct? Je le crois aussi. L'importance de la communauté. Je veux pas que mon pasteur ait à se soucier des finances, moi. Je trouve ça terrible quand les pasteurs ont à se soucier de ça. Ça les rend inefficaces pour le reste du ministère. C'est un péché d'Église. Je suis sévère, là, mais... Je crois pas à ça. Il y a des choses que Direction chrétienne fait de très bon que mon Église ne fera jamais et ça mérite d'être supporté. Direction chrétienne? Wow! Ils supportent un artiste qui travaille avec les itinérants de la rue à l'Église Saint-James au centre-ville. Il fait de l'art-thérapie avec eux. Okay? Son nom, c'est Bernard Rasco. À Hochelaga-Maisonneuve, ils font des projets pour aider des petites entreprises, partir des micro-entreprises, apprendre aux gens qui n'ont jamais géré une scène parce qu'ils sont sur l'aide gouvernementale de génération en génération. Ils les aident à partir une petite business. Ils font des jardins communautaires, ils portent des petites entreprises, ça s'appelle, ils ont fabriqué du chocolat. C'est des jeunes, là, ils ont 16 ans, là, puis ils sont en charge, là, puis ils achètent la matière première, et ils préparent ça, ils en revendent, ils ouvrent un compte de banque, ils font ça. Quoi d'autre qu'ils font? Ils font tellement d'affaires. Oui, ah oui, exactement. Le centre Accroche, ça a été parti, ça, là, 25 ans, le centre Accroche. Hein? Il y a quoi? Il y a 40% de nos jeunes garçons qui finissent pas le secondaire? Wow! On s'en va où avec ça comme société si on ne les aide pas? Eux, ils libèrent des bénévoles pour les aider. Ils font plein d'affaires. C'est vraiment un beau ministère. Non, non, on invite le directeur de l'organisation à venir prêcher chez nous de temps en temps, puis... C'est correct d'avoir une liberté, là... Il y a toutes sortes de critères qu'on peut avoir pour mieux choisir à qui donner. Est-ce qu'on va donner juste à des organisations chrétiennes ou on va donner à des organisations qui soulagent la pauvreté, mais qui ne sont pas nécessairement chrétiennes? Donc, ça, c'est à vous à décider. Moi, je préfère privilégier une organisation qui fait les deux, en fait. Vision mondiale, c'est une organisation chrétienne qui aussi allège la pauvreté. J'aime ça, ça me plaît. Direction chrétienne, je reviens là-dessus. Parce que... Je vais être sévère un petit peu encore une fois avec vous ce soir. Le Québec est la province la moins généreuse au Canada. En pourcentage de nos revenus qu'on donne à des organisations de bienfaisance. On arrive en avant-dernière position au Canada, statistiquement parlant. Pourquoi c'est comme ça? Je ne sais pas. Je pense du côté anglophone, ils ont développé cette habitude-là de donner depuis plusieurs générations. Nous, on investit plus en rénovation que sur les dons de charité. Oui. Le dernier, il y a Statistique Canada qui donne de la bonne information là-dessus et il y a des sondages aussi par des maisons de sondage, là, Gallup, des choses comme ça. On arrive toujours en fin de peloton, malheureusement. Donc, il faut vraiment développer ce comportement, cette culture de don. Je reviens à la direction chrétienne parce que ils gèrent un budget de 1,2 million par année. Comme organisation, okay? C'est tous des dons et des fondations qui reçoivent tout ça. Ce qui me chicote dans l'affaire, c'est que ils reçoivent 15% de leur budget annuel les deux derniers jours de l'année. C'est stressant, ça, comme directeur, de vivre ça. Le 30 et le 31 décembre, ils reçoivent 15% de leur 1,2 million en deux jours. Pourquoi est-ce qu'on donne comme ça, nous autres? Pourquoi est-ce que les gens donnent de façon si bizarre pour l'impôt? Elle est là, la réponse. J'ai besoin de mon reçu d'impôt, la fois que je vais donner le 31 décembre. Je pense qu'on a besoin de devenir un peu plus régulier. Parce que qu'est-ce que ça veut dire pour une organisation comme ça? Ça veut dire que les gens donnent beaucoup à fin de l'année. Qu'est-ce qui se passe en janvier, février, mars? Ils ont de la misère à payer le salaire de leurs propres employés. C'est ça que ça veut dire. Ce serait plus facile si les dons étaient plus réguliers. Donc, le directeur vient me voir et dit, « François, peux-tu nous donner un coup de main? Parce qu'on a de la misère à payer nos employés en début d'année. Moi, ma maison est payée. J'ai une marge de crédit hypothécaire. Donc, la banque me passe jusqu'à 80% de la valeur de ma maison en garantie. Okay, j'ai une maison de 400 000, 80 % 8 x 4, 32. J'ai accès à 320 000 piastres de crédit. C'est-tu assez débile? À un taux de 3 %, 3,5 %. C'est bon, hein? Il y en a qui vivent avec des cartes de crédit jusque-là, puis ils payent 20 % d'intérêt. Ça me fend le cœur, honnêtement. J'aimerais que notre église prennent une marge de crédit hypothécaire pour aider les gens dans notre communauté qui sont au coût comme ça avec des cartes de crédit à 20 %. Pour moi, ça ne fait pas de sens que ces gens-là soient étouffés par des cartes de crédit à 20 %. Puis le péché de la carte de crédit, vous savez, c'est quoi? C'est que si tu empruntes 1 000 sur ta carte de crédit, tu vas être imposé à 20 % sur le 1 000 jusqu'à temps que tu aies fini de rembourser ton 1 000. Même s'il te reste juste 40 piastres à donner dessus, il te charge encore 20 % du 1 000. Oui. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, mais les cartes de crédit sont là pour faire de l'argent sur votre dos. Il faut se débarrasser du crédit à 20 % d'une dette à 20 % ça me tue quand j'entends ça. Moi, j'aimerais mieux que mon église prenne une marge de crédit hypothécaire puis qu'on aide ces gens-là pour qu'ils puissent se débarrasser de leurs dettes le plus vite possible. Mais ça, c'est une parenthèse. Donc, le directeur de Direction chrétienne, un bon ami à moi, un mentor dans ma vie depuis 25 ans, il me dit « François, peux-tu me donner un coup de main? » Fait que, en février, j'y signe un chèque de 50 000. Ça l'aide à payer ses employés. Il me rembourse en décembre, tu sais, quand tout l'argent rentre là, en fin de l'année. Là. Il me rembourse en décembre, puis je lui dis « Garde les intérêts. J'absorbe les intérêts. » Fait que je peux faire ça avec le salaire que j'ai. Je fais partie des riches. Dieu a un cœur pour les pauvres. Tout ce que j'ai appartient à Dieu. Comment est-ce que je peux mettre ça au service du royaume? C'est de ça que je vous parle ce soir. Là, je suis pogné. Est-ce que je donne à la mission ou est-ce que j'allège la pauvreté? Parce que les deux sont importants. Quand vous allez décider à qui vous allez donner dans votre vie, là, il faut considérer ces deux points-là, parce que les deux sont bibliques, les deux sont dans le cœur de Dieu. Je suis déséquilibré en ce moment dans la façon que je donne, je le reconnais, je veux rectifier la situation. Parce que ça, sur le 5 000, bon, il y a peut-être un 1 000 qui va pour vraiment alléger la pauvreté. Des gens dans notre communauté qui n'ont pas grand sou, qui ont de la misère à finir les fins de mois, qui ont besoin de coupons pour aller au IGA, des choses comme ça. Mais quand même, c'est juste 20% de mon don à mon église qui pourrait servir aux pauvres. Ça, c'est pas des pauvres. Ça, oui, il y a un peu de pauvreté là-dedans. Ça, je m'exprime pas là-dessus. Ça, oui, c'est des pauvres. Ça, non. Ça, oui. Mais je suis pas à 50-50. Ça me fatigue. Puis, en tout cas, c'est quelque chose que je réfléchis puis que je cogite avec mon ami Kolodenchuk. Je veux que ça soit équilibré entre la mission et la pauvreté. Je termine. Je sais pas quelle heure qu'il est, monsieur le chronomètre. Là. Le sujet est trop... on est en plein dans le mille. Je vous invite à regarder ce reportage-là. Ça s'appelle Live 58. Okay? C'est basé sur Ésaïe 58 qui nous parle du vrai jeûne. Okay? Le vrai jeûne, c'est de prendre soin du pauvre, de la veuve, de la personne qui a besoin d'aide. C'est un reportage, c'est-à-dire à peu près une heure. Et puis, vous allez être mis dans différentes situations où on va vous montrer comment des gens dans la dèche peuvent s'en sortir quand ils en reçoivent un petit coup de pouce. Fait que je vous invite à regarder ça. Ça s'appelle Live 58. .org/thefilm. Et c'est basé sur Ésaïe 58. Oui. Je ne crois pas. Désolé. Si vous voulez partir un groupe de discussion, si vous êtes tanné du tabou, comme moi je suis tanné du tabou au niveau des finances dans nos églises, là, et vous voulez partir un groupe de discussion, il y a de la littérature qui existe. Ça s'appelle « Lazarus at the Gate », okay? L'histoire de Lazare là, qu'on a vu tantôt. Et moi, je suis en train de faire la traduction de ce document-là. Donc, ça va être disponible. Et c'est qui fait la traduction? C'est Jessica Kramer. Oui, il est quasiment fini. Et on va partir à un groupe de discussion. Moi, je veux rassembler les gens dans mon église là, que ça intéresse. Puis on va parler des vraies affaires. C'est quoi ton salaire? Combien tu donnes? Pourquoi tu donnes? À qui tu donnes? Ah ouais, mets tes tripes à la table. Sois prêt à recevoir le commentaire des autres, puis à te faire peut-être brosser la cage un peu. Let's go!